Lénaïque Monnier.
Et à 6h, c'est Alban Le Prince qui vous informe. Bonjour Alban.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. À la une ce matin, les manifestations pro-palestiniennes qui prennent de plus en plus d'ampleur. Après Sciences Po, les facs, les lycées pourraient à leur tour se mobiliser. Que fait la police? Que fait le gouvernement? Élément de réponse dans un instant.
Le logement social à vie, c'est fini. Objectif affiché hier sur Europe 1 et CNews par Guillaume Kasbarian, le ministre du Logement, qui a proposé un projet de loi en Conseil des ministres. Décryptage dans ce journal.
Et puis les révélations d'Adriana Carambeu, l'ancien mannequin se confie dans une autobiographie. Elle affirme avoir été victime d'une agression sexuelle en 2010. Les détails à suivre.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Christophe Bordet nous parle de pré-relais et votre note secrète, Fabrice Lafitte.
Alors là, on va se dandiner sur Vanina par Dave.
Et c'est après le journal et votre première tendance météo. Rebonjour Anthony Kazmarek.
Rebonjour les naïcs, bonjour à tous. L'agitation se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle perturbation qui apportera des pluies ou des averses quasiment dans toutes les régions, sauf entre l'Alsace et la Méditerranée où là vous aurez un temps plus sec mais très voilé, avec de la fraîcheur encore entre 13 et 23 degrés.
Et météo complète après le journal.
Europe 1.
Et après l'enseignement supérieur, les manifestations pro-palestiniennes vont-elles faire tache d'huile?
C'est en tout cas ce que redoutent les renseignements dans une note révélée par Europe 1 hier. Les lycéens pourraient à leur tour se mobiliser. L'Union syndicale lycéenne appelle à des blocus dès lundi et à moins d'un mois des épreuves du bac. Des jeunes qui bien souvent manquent d'informations et sont manipulés. Ce que regrette Jonathan Arfi, le président du CRIF. Il était l'invité de Pierre de Villeneuve hier soir sur Europe 1.
Il y a de l'inculture, mais il y a aussi des manipulations volontaires, des meneurs. Il y a des gens qui, au moment où ils vont chercher ce slogan et ces mains rouges, ce geste, savent très bien ce qu'ils font. Effectivement, personne parmi ceux qui ont étudié très sérieusement le conflit israélo-palestinien ne peuvent ignorer le sens de ces mains rouges. Que des gens derrière les fassent sans comprendre est une chose, mais ceux qui les ont introduits dans le débat en France, qui les ont introduits dans les manifestations et les sittings à Sciences Po, savaient très bien ce qu'ils faisaient. Les radicaux ont gagné. Les radicaux, même s'ils sont très largement minoritaires, parviennent à imposer leur agenda à des effectifs pourtant d'étudiants beaucoup plus nombreux, mais qui restent une majorité trop silencieuse.
Alors évidemment, cette mobilisation est surveillée de très près. Les campus Sciences Po de Paris ou encore Lyon ont été évacués hier. Matignon affirme de son côté que la fermeté est et restera totale. Mais que fait le gouvernement? A-t-on, Jacques Serret, ne serait-ce qu'évoqué cette question hier en Conseil des ministres?
Eh bien non, en tout cas en croire la porte-parole du gouvernement.
Alors le point n'a pas été abordé dans l'ordre du jour du Conseil des ministres, mais vous êtes bien au courant que le sujet est bien évidemment suivi.
Pas un mot du président sur ces blocus à répétition, mais Prisca Thévenot assure que la situation est sous contrôle.
Il faut rappeler quelque chose qui est assez simple et qui a été rappelé par Gabriel Attal lui-même, la fermeté est là et elle doit le rester.
Tout en insistant sur le fait que les universités doivent aussi rester des lieux de débat.
Nos universités françaises sont des lieux d'excellence, sont des lieux de savoir, sont des lieux de débat et de dialogue. Quand il y a effectivement un conflit qui s'ouvre, le premier des sujets, c'est de le résoudre par le dialogue.
Un certain en même temps entre le souci de se montrer ferme et celui de ne pas se mettre à dos les étudiants. Décryptage d'un conseiller ministériel, ce n'est pas le moment de contrarier les électeurs de la gauche. Dans les sondages pour les européennes, le candidat socialiste Raphaël Glucksmann n'est en effet pas loin de rattraper la macroniste Valérie.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Alors, Conseil des ministres hier, donc au cours duquel Guillaume Kasbarian, en charge du logement, a tenté de répondre à la crise.
Construction neuve à l'arrêt, manque de logements, effondrement du nombre de permis de construire, il y a urgence. Et c'est sur Europe 1 et CNews hier que le ministre a dévoilé ses objectifs. Créer un choc d'offres, favoriser la mobilité dans le parc social alors que 2 600 000 personnes attendent un HLM. Guillaume Kasbarian s'attaque donc au logement social à vie. Margot Faudéré, on a bien l'impression que c'est terminé.
C'est l'intention du ministre. Aujourd'hui, lorsque vous êtes résident d'un HLM, vous avez le droit de dépasser le plafond de ressources jusqu'à 20% sans conséquence. Au-delà, vous devez payer un surloyer. Demain, si le texte est adopté, non seulement vous serez assujetti à un surloyer dès le premier euro de dépassement, mais en plus, si vous dépassez de plus de 20% le plafond pendant 2 années consécutives, votre bailleur vous donnera 18 mois pour quitter les lieux. Hier, dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1, le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, a voulu rassurer sur cette mesure.
On parle de plafonds qui sont très élevés. Par exemple, à Paris, un couple avec deux enfants, c'est 8 000 euros. Quand on a 8 000 euros, on a peut-être vocation à laisser la place à des personnes qui attendent parfois depuis des années et des années avant de pouvoir bénéficier d'un logement.
L'idée, c'est de remettre plus de mobilité dans le parc, défend le ministre. Encore faut-il qu'il y ait assez de logements pour accueillir ensuite les nouveaux résidents, s'inquiètent plusieurs élus locaux. En tout cas, construire plus et plus vite, c'est bien l'objectif du projet de loi présenté hier par le gouvernement. Et le défi est de taille. Le manque est estimé à 500 000 nouveaux logements chaque année.
Et notez que selon l'étude d'impact du ministère, plus de 130 000 nouveaux ménages seraient concernés par la réforme du surloyer. Environ 30 000 verraient leur bail résilié. Accident de voiture pour Bruno Le Maire hier soir alors qu'il quittait Bercy. Le ministre de l'économie a percuté un cycliste qui venait de griller un feu rouge. Touché à l'arcade sourcilière, ce dernier souffre d'un possible traumatisme crânien. Bruno Le Maire n'a de son côté pas été blessé, a été testé négatif à l'alcool et aux drogues.
6h05 sur Europe 1 et jusqu'à 10 000 personnes sont attendues aujourd'hui à Alban à Châteauroux.
Oui, pour la marche blanche solidaire organisée en hommage à Mathis, 15 ans, tué la semaine dernière à l'arme blanche par un autre adolescent. Organisée par sa famille, elle partira à 15h30 de la place Lafayette et passera devant les établissements qui ont compté pour lui. Son école, sa maison, le restaurant de ses parents et celui dans lequel il travaillait. À Sochaux, 6 collégiennes vont être jugées en juillet, annoncé hier du parquet de Montbéliard. Elles sont accusées d'avoir violemment agressé le 28 mars l'une de leurs camarades et d'avoir filmé la scène. 5 d'entre elles ont déjà été exclues de leur collège. La 6e doit passer prochainement au conseil de discipline.
Et puis une nouvelle fusillade sanglante cette nuit en Seine-Saint-Denis.
Oui, cela s'est passé à Sevran dans le quartier des Baudottes. Au moins 4 personnes ont été blessées par balle, dont 3, selon les dernières informations d'Europe 1, sont en urgence absolue.
On en vient à présent, Alban, à ces révélations d'Adriana Carambeu.
Dans son autobiographie Libre, que l'ex-top modèle et présentatrice télé publiée aux éditions Le Duc, elle révèle avoir été agressée sexuellement en 2010 par un cinéaste français, un infâme prédateur, dit-elle, Marie Jiquel, qui aurait tenté de la violer.
Oui, un célèbre réalisateur français, plusieurs films à son actif et dont l'identité n'a pas été révélée. Cet après-midi-là, nous sommes en 2010, Adriana Carambeu se rend chez ce cinéaste qui lui propose alors le rôle de ses rêves. Il discute rapidement du scénario, puis il se rapproche d'elle sur le canapé, pose sa main sur son genou et se jette sur elle pour l'embrasser violemment. Je sens sa salive sur mon visage et sur ma poitrine, confie l'ancien mannequin qui parvient à s'enfuir et garde le silence jusqu'à aujourd'hui. Un réalisateur au comportement parfois limite, ça se savait dans le milieu. Un témoignage qui s'ajoute à la longue liste des actrices qui prennent la parole depuis les accusations de Judith Godrèche à l'encontre de Benoît Jacquot, des actrices qui dénoncent des violences sexuelles dans le milieu du cinéma et une omerta toujours aussi pesante.
Marie Jiquel.
On va passer au sport à présent, Alban, avec du foot, déjà la 32e journée de Ligue 1.
Avec 4 matchs prévus aujourd'hui, Le Havre reçoit Strasbourg à 15h, Clermont se déplace à Monaco à 17h, suivi de Metz-Rennes à 19h et Brest-Nantes à 21h. Hier, Montpellier s'est imposé 2-1 à Toulouse et Lorient s'est incliné sur la pelouse de Lens 2-0. Et puis en tennis, à 3 semaines de Roland-Garros, dont Europe 1 et la radio officielle, l'inquiétude sur l'état de santé du numéro 3 mondial. Carlos Alcaraz annonce renoncer au Masters de Rome à partir de la semaine prochaine, toujours gêné par son avant-bras. Il souffre d'un œdème musculaire.
Allez, on conclut ce journal avec une grande première dans l'histoire de la conquête spatiale.
La Chine a lancé hier une sonde destination la face cachée de la Lune. Elle n'a jamais été explorée. Et si Pékin réussit sa mission, la Chine deviendrait ainsi le premier et seul pays à posséder un échantillon de cette partie de la Lune, Antoine Bienveau.
Oui, si tout se passe comme prévu, la Chine se trouvera en possession de roches lunaires vieilles de 4 milliards d'années. Pour collecter ces échantillons, la sonde va se poser dans l'immense bassin Sud-Aitken, invisible donc depuis la Terre. C'est là que se trouve l'un des plus grands cratères d'impact de tout le système solaire. Et selon Bernard Fouang, scientifique à l'Agence spatiale européenne, c'est ce cratère datant de plusieurs milliards d'années qui présente le plus d'intérêt pour l'expédition.
Cet impact a été tellement intense dans les tout débuts de l'histoire de la Lune qu'il est même possible qu'il ait projeté des parties du manteau de la Lune, donc interne, vers la surface. Et ça serait la première fois que l'on pourrait avoir accès à des échantillons de manteau interne de la Lune.
Des échantillons internes de la Lune ramenés sur Terre, ce serait donc une première. Et la Chine ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle a déjà pour projet d'envoyer une autre sonde sur le pôle sud de la Lune pour y trouver de l'eau.
Antoine Bienveau.
Et c'était le journal présenté par Alban Leprince. Merci Alban. On se retrouve dans une heure. On va voir côté temps ce que ça donne. Anthony Kazmarek, vous êtes revenu de vacances avec oui. de la pluie et des nouvelles pas très réjouissantes.
Non, écoutez, c'est vraiment désespérant.
Ce samedi, oui.
On se demande quand ça va s'arrêter. J'ai peut-être de bonnes nouvelles, mais rendez-vous après 8h30 pour la météo à 7 jours.
Ah oui, il va falloir attendre jusque-là. Ah
ouais, bah oui. Aujourd'hui, c'est donc la pluie qui va encore dominer. Alors sur quasiment toutes les régions, sauf entre la façade Est et la Méditerranée, sur l'Alsace, le Jura, les Alpes et de la vallée du Rhône jusqu'au Languedoc-Roussillon, jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse, ainsi que sur l'Est des Pyrénées. Là, vous aurez un temps normalement sec, mais avec un voile de nuages qui va s'épaissir au fil des heures, donc qui devrait peu à peu masquer le soleil avec de plus en plus de passages nuageux. Et puis ailleurs, c'est très simple, un temps très humide, instable. Alors ce sera sec ce matin entre les côtes de la Manche, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec de belles éclaircies. Et puis, comme les jours précédents, les averses vont s'installer dans l'après-midi avec parfois un caractère orageux. Et puis entre la côte atlantique, la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la liste est longue, la liste des régions concernées par les pluies. Champagne-Ardenne, Bourgogne, toutes les plaines du sud-ouest, ce sera donc de la pluie. Les pluies qui vont traverser ces régions entre ce matin et cet après-midi. Et les pluies les plus soutenues, ce sera ce matin pour le Pays Nantais et la Vendée. Et cet après-midi, entre la Touraine, la Sologne et le Berry. Et puis en plus, il y aura du vent.
Et en plus, les températures sont en légère hausse, mais on ne va pas vraiment le ressentir puisqu'on sera à l'abri à la maison.
Bah oui, exactement. Un degré de plus qu'hier à peine. Alors ce matin, c'est même franchement frais, entre 4 et 10 degrés. Bon, 16 déjà à Biarritz. Et puis dans l'après-midi, vous aurez seulement 13 à Aurillac, 15 à Reims, 16 degrés à Paris, à Lille et à Brest, 18 à Nice et Clermont-Ferrand, 19 à Lyon, 20 à Strasbourg et Toulouse et 22 pour Tarbes.
Et bien voilà pour le programme des réjouissances de ce samedi 4 mai. Merci beaucoup. Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, les meilleurs moments de Pascal Praud et vous. Mais avant cela... Il est l'heure de vous retrouver comme chaque week-end, Thierry Léger, pour vos pronostics. Bonjour Thierry.
Bonjour les Naïcs, c'est sur les 2850 mètres de la grande piste de l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet. Une course au trot attelé réservée aux chevaux âgés de 5 ans. Et parmi les 14 partants, il est impératif d'accorder un très large crédit à Jazzman de Bayeul, le numéro 6, qui aligne les victoires. 4 depuis le début de l'année pour autant de tentatives. En constant progrès à chacune de ses sorties, il ne cesse de repousser ses limites. Et malgré une opposition cette fois plus relevée, je le crois capable de franchir un nouveau palier et d'aligner ainsi une 5e victoire consécutive. On lui opposera Giosco de Fitz, le numéro 4, qui vient de jouer de malheur en dernier lieu dans un groupe 2 le 13 avril à Vincennes, en se montrant fautif aux abords du poteau alors qu'il avait course se gagner, mais aussi les numéros 9, Jack Tonic, 10, Jack Strick, 5, Jason et 11, J'aime le foot, classés dans cet ordre aux 4 premières places ce jour-là. Enfin, les numéros 14, Just Gigolo, le plus titré de ce quintet, mais absent depuis le 27 janvier, et 2, Joconde Sibet, bonne deuxième face aux seules femelles d'un groupe 2 le 13 avril à Vincennes, ne sont pas incapables de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 6, 4, 9, 10, 5, 11, 14 et 2.
On a tout noté. Merci beaucoup Thierry Léger. À demain.
Europe 1, Pascal Praud et vous.
Pascal Praud, que vous retrouvez tous les jours de la semaine entre 11h et 13h, bien entendu, il vous donne la parole, vous le savez désormais. Alors jeudi matin, c'est Philippe Candeloro, qui n'est pas un anonyme, bien entendu, et qui était l'invité de Pascal, après ses confidences au Figaro, dans lesquelles il a déclaré qu'il avait l'impression qu'être hétéro aujourd'hui était une maladie. Forcément, ça a fait réagir, écoutez.
Avec le MeToo, avec le wokisme et tout ça, on n'est plus aussi naturel qu'au départ.
C'est-à-dire ?
Moi, en 2006, quand j'ai commencé à Turin... je parlais...
Vous êtes complètement censuré ?
En fait, on nous dit pas « tu peux pas dire ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça ». C'est juste qu'on s'auto-censure aujourd'hui, par peur de dire que chaque mot qu'on va prononcer de notre bouche va être presque une insulte. Alors, moi, je suis hétéro, oui. Est-ce que c'est une maladie aujourd'hui d'être hétéro ? J'ai l'impression que oui.
Philippe Candeloro, bonjour.
Bonjour Pascal, ça va ?
Vous trouvez pas que vous poussez un peu le bouchon un peu loin ? Enfin, moi, on peut dire à une femme, aujourd'hui... Vous êtes jolie sans imaginer qu'elle va porter plainte et sans arrière-pensée surtout. Alors, en tout cas, arrière-pensée sans vouloir la mettre dans son lit, en clair. On peut dire à quelqu'un, t'es vachement jolie, ça te va bien, etc. Ça nous arrive quand même, j'espère.
Oui, je suis d'accord avec vous. Bon, le problème, c'est justement l'arrière-pensée. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui pourra déterminer dans quelques temps si on a des arrière-pensées ou pas. Mais c'est quand même une réalité où, en fait, on a un petit peu peur de, aujourd'hui, de chaque mot qu'on va prononcer. Effectivement, c'est un peu, on ne sait pas comment la personne va le prendre.
Voilà. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a effectivement, aujourd'hui, qui est mise en place une volonté de ne pas, ou une obligation de ne pas offenser, et notamment de ne pas offenser les damnés de la Terre. Alors, qui sont les damnés de la Terre, pour faire court? C'est les victimes de l'homme blanc. Voilà. Et l'homme blanc, il a été perçu comme colonisateur, comme capitaliste, comme tout ce que vous voulez. Bon, alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des blagues que tu ne ferais plus.
Il y a combien de temps? C'était il y a combien de temps?
Je suis d'accord avec vous, mais il y a des blagues que tu ne ferais plus. Ça, c'est vrai. Et puis, cette, comment dire, ce qui est nouveau, c'est que le second degré est pris comme du premier degré, et qu'effectivement, beaucoup de gens, dans le temps, tu pouvais blaguer sur tout, en fait, sur les Juifs, sur les Belges, sur les homosexuels, sur tout. Et aujourd'hui, les gens disent « Ah oui, mais vous m'offensez ». Alors, ouais, effectivement, ça limite l'humour, ça c'est vrai. Alors, on ne fait plus de blagues, je n'irai pas faire des blagues sur n'importe quel sujet, vous avez raison. Bon, ça, ça a changé, je suis d'accord.
Bah mais... Oui, mais alors on fait comment? Pour continuer à...
En fait, moi, on a le droit de se moquer, par exemple, des beaufs. On a le droit de se moquer, effectivement, des gens qui font tourner les serviettes et des ploucs. Ça, on a le droit. Mais il y a des choses dont on n'a pas le droit de se moquer. C'est vrai, c'est vrai.
Pourtant, ça peut les offenser, quand même.
Oui, mais on s'en fiche d'offenser les ploucs.
Non, bah après, moi, c'est vrai que je n'ai pas cette relation-là avec les gens. Je n'ai pas l'impression d'être désobligeant, d'être malsain et d'être malpoli, puisque les gens, ce n'est pas ce qui me témoigne dans la rue. Donc, je continue à être celui que je suis, parce que j'ai l'impression que c'est aussi comme ça que j'ai, en fait, je suis né auprès de ma popularité et que j'essaie de la garder. Donc, si c'est ça la longévité de ma notoriété, je vais la garder. Je vais pas tout changer. Mais c'est vrai qu'en télé aujourd'hui, quand on est dépendant d'une chaîne comme France Télévisions, parce que là, ils m'embauchent pour commenter le patinage. Quand je viens sur votre antenne ou sur une chaîne de télé, en fait, je suis moi. Donc, en fait, ça regarde que moi de m'exprimer de la manière dont j'ai envie. Et effectivement, là, il y a plus personne pour vous protéger.
Voilà, 01 80 20 39 21 pour joindre le standard de Pascal Praud et vous, que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi entre 11h et 13h. Et en ce moment sur Europe1.fr. D'ailleurs, c'est facile à trouver, c'est tout en haut du site.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h16.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
L'heure du journal permanent, Alban Le Prince.
On aura des blocus partout en France, après Sciences Po et les facs. L'Union syndicale lycéenne appelle à une mobilisation pro-palestinienne dans les lycées à partir de lundi. Hier, Matignon a prévenu, la fermeté est et restera totale. Le Hamas est de son côté attendu au Caire. Aujourd'hui, le mouvement terroriste dit vouloir poursuivre les discussions sur l'offre de trêve avec Israël, mais accuse dans le même temps Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, de chercher à entraver les efforts en vue d'un accord. Une claque pour le gouvernement. Cette nuit, les députés ont rejeté en commission un article contesté du projet de loi agricole qui prévoit la création de groupements fonciers agricoles d'investissement destinés à faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs. Une nouvelle réécriture de l'article pourrait être proposée. Et puis un mot de Formule 1, Max Verstappen partira en pôle cet après-midi pour la course sprint du Grand Prix de Miami. Il sera suivi de Charles Leclerc et Sergio Pérez.
Merci beaucoup, Alban Prince. Il est 6h17 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Dans un instant, sur Europe 1, la note secrète de Fabrice Lafitte consacrée à Dave et Vanina. Double anniversaire ce matin. Et puis Christophe Bordet sera là également pour nous mettre en garde contre les pré-relais. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1. Bienvenue à tous.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk.
Europe 1, le grand rendez-vous.
Demain, le grand rendez-vous, Europe 1, CNews, Les Échos. Notre invité, le politologue Jérôme Fourquet. La campagne des Européennes qui s'accélère, les manifestations et blocus dans les universités et le phénomène d'ultra-violence chez certains jeunes. Sur tous ces sujets, l'auteur de L'Archipel français et de La France d'après est à retrouver demain sur CNews et Europe 1.
10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Mais si, Chantal, c'est très simple. On a appelé notre entrepreneur qui a contacté son cousin maçon et qui a demandé à sa femme de nous faire un devis.
Oui, effectivement, c'est simple.
Alors on a attendu, enfin pas longtemps, environ 3 mois, et on a reçu notre devis.
Ah. Eh bien, chez Akena, vois-tu, tu te connectes sur le site akena.com, tu demandes un devis gratuit et on te rappelle en 48 heures. C'est dingue, non?
Ah oui, quand même.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
À
Allez, comme tous les week-ends, je suis ravie de retrouver le trio de choc d'Europe 1 matin week-end. Ils sont là, Mathieu Alterman, coucou Mathieu, on est là, Roland Pérez, vous fignolez les chroniques, dans une heure vous serez à la place de Christophe Bordet. Ouais. Bonjour ouais. Christophe.
Il a un peu de boulot ce matin, je pense.
J'ai l'impression que ça fignole, ça fignole.
C'est toujours très sérieux tout ce que je fais.
Ouais, alors ouais. Christophe, petite mise en garde ce matin, c'est important, sur les pré-relais.
Yes, alors les pré-relais c'est quoi? C'est un super découvert bancaire qui permet d'acheter un appartement ou une maison avant d'avoir vendu son logement. Vous êtes nombreux à le faire chaque année en France. C'est donc pour les secondo-accédants qui ne veulent pas rater une bonne affaire au moment de déménager, au moment de changer de région, de travail, etc. etc.
Alors quel est le fonctionnement de ce pré-relais?
Alors, c'est un mécanisme simple. Au demeurant, la banque avance un pourcentage du prix estimé du bien à vendre, souvent autour de 70%, afin de financer l'achat d'un nouveau bien. Après l'achat, l'emprunteur a jusqu'à 2 ans pour vendre son ancien logement et rembourser. Le problème aujourd'hui, c'est que de nombreux biens ne trouvent pas preneur faute de crédit, parce que, évidemment, les taux restent élevés. Résultat, certains détenteurs de pré-relais se font piéger, les amis. Et oui, non seulement ils ne parviennent pas à vendre leur premier logement, mais sont obligés de vendre le second pour finalement rembourser le pré-relais. Autant dire que c'est une affaire qui n'est pas très bien menée à la fin.
Alors, il y a un autre souci, Christophe, c'est l'accord des banques pour obtenir le pré-relais, qui est de plus en plus complexe. Là aussi, ça ajoute encore au problème.
Alors, ça semble un peu s'améliorer, mais quand même, les banques n'accordent pas plus de largesse que pour un prêt immobilier traditionnel. D'abord, les taux des pré-relais sont plus élevés que les prêts immobiliers classiques, aux alentours quand même de 5% actuellement. Là encore, selon les critères du Haut Conseil de stabilité financière, le taux d'effort des emprunteurs, c'est-à-dire le ratio, suivez bien, le ratio des charges d'emprunt par rapport aux revenus, ne doit pas excéder 35%. Alors pour l'emprunteur, il doit rester de l'argent en fait pour vivre au quotidien, c'est tout à fait normal. Ça ne sert à rien d'être dans la maison de vos rêves si vous devez manger des patates matin, midi et soir.
Alors justement, évidemment. Christophe, même si on aime beaucoup les patates, il y a plusieurs sortes de pré-relais.
Oui, il y a plusieurs sortes de pré-relais. Il y a le pré-relais sec lorsque le nouveau bien est acheté au même prix ou à peu près que le bien vendu, voire même un prix un peu inférieur. Il y a le pré-relais intégré. Il vise à couvrir l'intégralité de la transaction. Vous pouvez également souscrire à un pré-relais associé à un prêt immobilier classique lorsque le montant du crédit relais ne suffit pas à couvrir la valeur du nouveau bien. Il y a le pré-relais avec franchise totale. Ce type de crédit est accordé pour une durée de 24 mois. Si la vente est finalisée au cours des 12 premiers mois, eh bien, le souscripteur, devra rembourser le capital et les intérêts dus dès la première année. Quant au remboursement du pré-relais, deux solutions sont envisageables. La franchise partielle, je sais, c'est un peu technique, mais c'est important de le dire, la franchise partielle, remboursement des intérêts et de l'assurance chaque mois, le capital n'est remboursé qu'au moment de la vente de la maison. Et puis la franchise totale, ce mode de remboursement qui permet de ne régler ni capital ni intérêt pendant la durée de l'emprunt. Dernier conseil, pour connaître la formule qui vous convient le mieux, parce que chaque cas est différent, évidemment, eh bien, il faut consulter son banquier ou appeler un courtier qui sera toujours de très bons conseils.
Où on appelle Christophe Bordet parce que moi j'ai tout compris.
C'est bien.
Voilà, j'ai tout compris.
Félicitations. Pourtant, vous avez compris, vous ou pas?
Roland a compris, c'est normal, il est juriste.
Je comprends toujours tout ce que vous dites. C'est formidable.
Merci beaucoup. Europe1.fr pour retrouver cette chronique.
Il est 6h22.
Allez, avant de retrouver Alexis de la Fléchère pour un nouveau journal sur Europe 1, on vous retrouve Fabrice Lafitte pour la note secrète. Bonjour Fabrice.
Bonjour Lénaïque.
Animateur à Europe 1 durant l'été 2009, le plus français des chanteurs hollandais, Dave, fête aujourd'hui ses 80 balais.
Oui. Et ce n'est pas tout, les Naïcs, c'est aussi les 50 ans de Vanina, cette chanson, parue le 9 mai 1974. Dave a connu des années de galère à chanter dans les rues et aux terrasses des cafés avant de signer chez le label CBS France au début du mois de l'année 1974. Il sort un premier 45 tours intitulé « Trop beau », reprise du tube « Sugar Baby Love » des Roubettes, et c'est tout de suite un succès. Sa maison de disques lui propose plusieurs chansons, mais ça ne lui plaît pas.
Oui, parce qu'en fait, Fabrice, Dave, il n'a pas du tout envie de se tromper pour son deuxième disque, normal.
Et il a raison, il veut un titre entraînant. Jean Vedely, ancien bassiste des Pirates et de Danny Logan, des succès des années 60, lui propose de se tourner vers le répertoire du chanteur américain Del Shannon pour faire une adaptation française de l'un de ses titres. Et Dave suit ce précieux conseil et sélectionne Runaway, qui s'est hissé en tête des ventes des disques fin avril 60. Je vous le remets dans l'oreille. Ah, ça vous est revenu. Alors, il faut savoir qu'en 1961, une première version française de cette chanson est d'abord interprétée par Orlando, le frère de Dalida, oui, qui s'est tenté lui aussi à la chanson, mais sans grand succès, sous le titre « Mon amour disparu » avec une adaptation française signée Richard Anthony.
Ouais, c'était la grande période des covers. Alors pour la version de Dave, hein, Fabrice, c'est son compagnon, Patrick Loiseau, qui écrit les paroles françaises.
Oui, de Vanina. Alors la grande question du jour, les Naïcs et chers auditeurs d'Europe 1 Matin Week-end, pourquoi cette chanson s'appelle-t-elle Vanina ?
Parce qu'il était amoureux d'une Vanina.
Alors Vanina, c'était tout simplement la meilleure amie de Monsieur Loiseau, Patrick Loiseau.
Ah d'accord, j'étais pas si loin que ça, c'était voilà. La famille quoi.
Et puis en plus c'est un petit hommage puisque Vanina est décédée quelques mois plus tard.
On écoute Vanina ?
Absolument.
Allez, on chante ce matin sur Europe 1 et on danse aussi. Cacophonie dans le studio, hein. Tout le monde n'était pas
debout,
on n'a pas la voix de Dave, Anthony
Calmaret. Mais tout le monde a chanté, c'est vrai.
Fabrice Lafitte. Vanina qu'on vous offre ce matin sur Europe 1, double disque de platine au printemps 75 par Dave, à qui on souhaite un excellent anniversaire puisqu'il fait partie des auditeurs d'Europe 1 matin week-end. Le programme de demain, Fabrice.
Alors, je rajoute que Dave célébrera cet événement avec son public sur la scène du Grand Rex à Paris le 21 mai prochain. Et demain, nous écouterons la chanteuse américaine Taylor Swift qui sera dans quelques jours en concert à Paris.
Merci Fabrice, à demain.
Merci, à demain.
Et je propose qu'on arrête de chanter parce qu'il va continuer à pleuvoir, sinon encore pendant plusieurs semaines. C'est la pluie et la fraîcheur qui dominent ce matin. Fraîcheur du côté de Longjumeau, 6 degrés, c'est ce que relève notre fidèle Kevin. Déjà connecté sur la page Europe 1 Matin Week-end, continuez bien sûr à nous envoyer vos messages. Vous faites comme Thomas qui lui est dans les Landes, du côté de l'Armagnac, 12 degrés ce matin, pas de pluie pour l'instant, mais ça va arriver dans l'après-midi. Flavienne est en vacances du côté de Rennes, 10-12 degrés ce matin, il en fera 16 cet après-midi. oui, mais avec là aussi de la pluie. Et puis Antoine, lui, est à Voiron, en Isère, il échappera à la pluie, avec un ciel qui alternera entre nuages et éclaircies, et 7 petits degrés seulement ce matin.
Voilà, tous les fidèles auditeurs d'Europe 1 Matin Week-end qui continuent à nous envoyer les messages, on vous salue évidemment et on vous remercie d'être à notre écoute chaque week-end. On rappelle également que c'est la fin des vacances pour la zone B et qu'il y a donc un peu de monde sur la route. C'est orange que prévoit Bison Futé aujourd'hui. La zone B, c'est une grosse zone, hein. Marseille, Amiens, Lille, Orléans ou encore Rennes. Donc peut-être que Flavienne aura quelques petits soucis sur la route. Oui. Et puis on va en profiter également pour souhaiter une bonne fête à tous les Sylvains qui nous écoutent peut-être.
Ils sont nombreux.
En ce moment, ils sont nombreux. J'en ai moi-même un à la maison, donc je pense qu'il ne sais pas s'il est encore réveillé. Mais en tout cas, voilà, bonne fête à tous les Sylvains.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
Et il est 6h30 sur Europe 1, l'heure d'accueillir Anthony de la Fléchère pour un nouveau journal. Bonjour Alexis.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. L'immigration, la guerre des gangs, toujours d'actualité à Mayotte. Le tout, vous l'entendrez sur fond de crise sanitaire avec les premiers cas de choléra sur place.
Les mobilisations étudiantes pro-palestiniennes se poursuivent en France. Environ 200 étudiants se sont rassemblés hier à Paris, place du Panthéon. Europe 1 était sur place, reportage à suivre.
Dans ce journal également, les craintes sécuritaires autour de la marche blanche organisée aujourd'hui à Châteauroux en la mémoire de Matisse. Certains appellent à la vengeance, ceux qui inquiètent la famille et les forces de l'ordre.
Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la balade du samedi. Vanessa, on part ?
On part à Cabourg se mettre en mode belle époque.
Et avec vous, Olivier Pouls, que déguste-t-on ?
Eh bien, un produit de saison de la rhubarbe.
Solange Escure est avec nous. Est-ce qu'il reste des places, justement, tiens Vanessa, dans les Gîtes de France pour les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte ? On lui pose la question après le journal. Et votre tendance météo, Anthony Kazmarek ?
Et pour échapper à la pluie ou aux averses aujourd'hui, cap à l'est et au sud-est, entre l'Alsace, les Alpes et la Méditerranée. Avec toujours des températures fraîches pour la saison, entre 13 et 23 degrés.
Et météo complète après le journal.
Europe 1.
Et à la une de votre journal, donc Alexis, ce calvaire qui continue à Mayotte.
Malgré les mesures annoncées en février par le gouvernement pour mettre fin aux gangs et à l'immigration illégale, à 8000 km de Paris et des lieux de pouvoir, le 101e département français ne voit toujours pas le bout du tunnel. Entre les cas de choléra récemment détectés et l'insécurité toujours bien présente, la situation, Antoine Bienveau, reste, on peut le dire, catastrophique sur place.
Oui, malgré la mise en place du plan Wambushu 2 le 16 avril, la situation sécuritaire à Mayotte reste très tendue. Selon la députée Lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, la bataille contre les gangs est encore loin d'être gagnée.
Il y a régulièrement des affrontements parce que regagner du terrain face aux bandes violentes, c'est pas facile, même s'il y a des dizaines d'arrestations. Donc il y a quand même beaucoup d'exaspération et de fatigue nerveuse de la part de la population.
Autre échec du plan Wambushu 2, selon elle, la gestion des flux migratoires vers Mayotte. Les bateaux en provenance d'Afrique de l'Est continuent d'arriver en masse, avec ces derniers jours un nouveau problème à résoudre.
Il y a toujours des arrivées de Kwassa-Kwassa et des Kwassa qui sont d'ailleurs chargés de malades du choléra qui débarquent des Comores. Donc on a vu des bateaux chargés de malades du choléra arriver à Mayotte et maintenant, il y a une souche qui s'est installée à Mayotte avec des dizaines de malades.
Une situation inquiétante car le seul hôpital du département est déjà largement surchargé et totalement dépourvu d'effectifs.
Antoine Bienveau, et dans ce contexte sanitaire jugé inquiétant à Mayotte, le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, a annoncé qu'il se rendra sur place les 9 et 10 mai prochains.
Et j'ajoute que la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, est dans l'avion. Elle arrive de Mayotte et elle sera dans le studio d'Europe 1 pour l'interview de 8h12. L'actualité en métropole marquée également par cette mobilisation étudiante en faveur de la cause palestinienne.
Preuve en est avec ces perturbations, blocages ou occupations partielles sur les campus de Sciences Po au Havre, à Dijon, à Reims, à Poitiers ou encore à Lyon, où le campus est administrativement fermé jusqu'au 12 mai. À Sciences Po Paris, les forces de l'ordre sont intervenues hier également pour déloger des étudiants, des élèves qui se sont rendus ensuite à la manifestation organisée place du Panthéon, manifestation pro-Palestine à l'appel notamment de l'UNEF et qui a rassemblé près de 200 étudiants et que Caroline Baudry a suivi pour Europe 1. Reportage.
Devant les colonnes du Panthéon, quelques drapeaux palestiniens dépassent de la foule et des mégaphones. Netanyahou à la poubelle chante dans un seul souffle. Des étudiants venus de Sciences Po, Nanterre, Paris 3 ou Paris 8 se réjouit Léonore Schmitt, 23 ans, porte-parole de l'Union étudiante.
On a beau nous dire que du coup à chaque fois c'est juste une dizaine ou des dizaines d'étudiants qui se mobilisent, en fait on voit que nous on est des centaines à se mobiliser pour faire entendre nos voix et faire entendre voilà, encore une fois cette voix de la paix qui est pour nous primordiale et urgente à faire entendre.
Et qui est muselée selon Arthur Sabatier, délégué général à l'UNEF.
On a des conférences politiques qui sont totalement interdites, donc, alors que finalement les blocages dans les facs ça a toujours existé.
Pourquoi réprimer des étudiants qui demandent la paix? Ça nous paraît bizarre, quoi.
Des journalistes étrangers viennent questionner les manifestants. Le député LFI Louis Boyard vient les soutenir, appelle à poursuivre le mouvement. Le syndicat étudiant uni, classé à droite, a lui été chassé de la manifestation.
Évidemment, on n'a pas envie de manifester avec ces gens-là, quoi. Ça, c'est clair.
Après avoir déployé des banderoles Hamas égale terroriste.
Caroline Baudry, l'Union syndicale lycéenne USL a appelé de son côté hier à la mobilisation lycéenne dès lundi dans tous les établissements en soutien à la population palestinienne. Et concernant une potentielle trêve à Gaza, le Hamas se rendra ce samedi au Caire pour poursuivre les discussions sur l'offre israélienne et parvenir à un accord. Déplacement dans un esprit positif, dit le mouvement islamiste dans un communiqué publié sur son site internet.
Et on retrouvera Ariane Ménage, la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, dans le journal de 7h. Toujours sur le plan international, on va retenir également cette estimation communiquée par le ministre français des Affaires étrangères sur la guerre qui oppose toujours l'Ukraine à la Russie.
Quelques 150 000 soldats russes ont été tués depuis le début du conflit. L'échec militaire de la Russie est déjà là, dit Stéphane Séjourné. Sur le front, la situation reste néanmoins bien difficile pour les forces ukrainiennes confrontées aux lenteurs de l'aide occidentale.
Retour en France, Alexis, avec cette marche blanche organisée aujourd'hui à Châteauroux en la mémoire de Matisse.
Oui, Matisse, c'est ce garçon, vous le savez, de 15 ans, poignardé à mort il y a une semaine par un autre adolescent à la suite d'une bagarre. Depuis, les messages de haine se multiplient à l'encontre du présumé meurtrier, un Afghan du même âge que Matisse. Il y a aussi ces appels à la vengeance auxquels Brice Taillon, adjoint à la sécurité de la ville de Châteauroux, a voulu réagir.
C'est une ville qui est sous le choc, solidaire avec cette famille. Et donc c'est le message de la famille, c'est que tout se passe dans le calme, dans la sérénité et dans la dignité, à l'exemple de ce qu'ils font depuis maintenant une semaine. Il n'y a qu'une famille qui aurait presque la légitimité de vouloir se venger. Et pourtant, cette famille, avec sa dignité, elle est tout sauf dans la vengeance. Ceux qui auraient l'idée de dénaturer ce message de sérénité, et de dignité, ce serait le signe évident qu'ils sont justement dans de la récupération. Ce genre de propos est nécessairement inquiétant, mais dans la mesure où le dispositif est dimensionné pour faire face à d'éventuels comportements de la sorte, eh bien les choses se passeront correctement.
Brice Taillon, adjoint à la sécurité de la ville de Châteauroux. La marche blanche en la mémoire de Matisse qui sera donc spécialement surveillée cet après-midi, d'autant plus que des personnes ont déployé hier des banderoles devant la mairie. L'une d'elles réclamait justice pour Matisse, l'autre laissait apparaître un message français « Réveille-toi ». Et cette marche blanche, elle doit partir précisément à 15h30 aujourd'hui sur la place Lafayette de Châteauroux. La famille de la victime appelle donc, elle, au calme.
On en vient, Alexis, à présent à cette chasse à l'arsenic dans la bibliothèque de Strasbourg.
Oui, ça peut paraître surprenant, mais l'histoire est bien réelle. Depuis quelques semaines, des milliers d'ouvrages sont retirés des bibliothèques allemandes, soupçonnés d'être contaminés à l'arsenic. En cause, un pigment vert utilisé au 19e siècle pour colorer le cuir. Et l'Allemagne n'est pas la seule concernée. En Alsace, voisine, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg procède elle aussi à des vérifications. Le reportage sur place de Tatiana Gieselmann.
C'est dans des pièces secrètes que sont stockés les livres anciens de la BNU de Strasbourg. Parmi eux, des ouvrages du 19e potentiellement contaminés.
À partir des années 1840, c'était très à la mode d'avoir des livres verts. Et pour produire ce vert, on utilisait de l'arsenic, donc un produit dangereux lorsqu'on le respire.
Il peut provoquer des malaises, des vomissements, voire des cancers. Alors Jérôme Schweitzer, conservateur à la bibliothèque, et ses collègues tentent de retirer des rayons tous les livres à la couverture vert émeraude, sauf que...
C'est possible qu'on ait gardé la couverture d'origine avec de l'arsenic, mais qu'on l'ait relié avec une reliure de conservation, et donc il faudrait ouvrir les livres pour savoir si la couverture est là ou pas.
Un travail qui va prendre des mois, car la BNU possède des centaines de milliers d'ouvrages datant du 19e.
Si on mettait bout à bout tous les livres qu'on a, ça couvrirait 70 km de rayonnage, d'où la difficulté de repérer les livres qui pourraient présenter un risque.
Si un tel livre venait à apparaître, il serait d'abord numérisé avant d'être stocké dans une boîte hermétique. Strasbourg, Tatiana Gieselmann, Europe.
Et nous prenons à présent la direction de Chablis, où les viticulteurs ont perdu, Alexis, une grande partie de leur récolte.
Oui, en cause évidemment les intempéries qui ont touché le département de l'Yonne ces derniers jours. De gros grêlons sont tombés par endroits et les dégâts sont très lourds sur un quart du vignoble de Chablis. Sur les parcelles les plus touchées, les viticulteurs pourraient perdre entre 80 et 100% de leur récolte. Alors, quelles répercussions économiques ces intempéries peuvent-elles avoir? La réponse de Damien Leclerc, il est président de la coopérative La Chablisienne.
À court terme, les impacts ne sont pas significatifs d'un point de vue économique, puisque
Les intempéries de ces derniers jours, en fait, amputent le potentiel de production de la récolte 2024, qui ne sera commercialisée, quoi qu'il arrive, pas avant l'été 2025. En revanche, les conséquences pourraient être perceptibles, clairement, à partir du deuxième semestre 2025 et du début d'année 2026. Nous évoluons quand même dans un environnement économique qui, pour le moins, est un petit peu incertain, voire maussade avec les conséquences de l'inflation. Et donc, il faudra que les exploitations soient quand même en capacité de faire le dos rond. Et je pense que ce sera quand même le cas, puisqu'une grande partie des exploitations sont assurées au titre de l'assurance multirisque aléa climatique. Et donc, j'espère en tout cas que l'impact sur les prix, en tout cas pour le consommateur final, restera très limité.
Damien Leclerc, président de la coopérative La Chablisienne.
On conclut votre journal, Alexis, avec le Tour d'Italie. Ça débute aujourd'hui.
Oui, le Giro, c'est comme ça qu'on l'appelle. Grand départ aujourd'hui, première étape entre Venaria Reale et Turin, avec un immense favori, Tadej Pogacar, le Slovène impérial depuis le début de saison. Il vient notamment de remporter Liège-Bastogne-Liège et rêve du doublé Giro. Tour de France, un exploit qui n'a plus été réalisé, Martin Lange, depuis plus d'un quart de siècle.
Oui, depuis 1998 exactement, et un certain Marco Pantani. Cette année-là, le pirate avait levé les bras à Milan et sur les champs. Une autre époque marquée aussi par le dopage. Mais selon Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, s'il y a un coureur capable de réaliser cet exploit, c'est bien Tadej Pogacar.
Il a un grain de folie, même peut-être deux grains de folie, Pogacar, voire trois. Il est capable de tout, et il a un programme qui est très très allégé cette année, puisqu'il arrive au départ du Tour d'Italie avec 10 jours de course seulement, dont cette victoire, et qu'il a une équipe de folie sur le Tour de France, avec un seul but, faire gagner Pogacar à Nice le 21 juillet.
Avant cela, il faudra déjà triompher de l'autre côté des Alpes face à une adversité certes amoindrie, mais le Giro réserve souvent des surprises avec des conditions climatiques dantesques. Le Slovène devra ensuite vite récupérer, 5 semaines seulement entre l'arrivée à Rome et le départ de la Grande Boucle. Depuis 26 ans, ils sont plusieurs à avoir tenté le doublé Giro Tour de France. Alberto Contador, Christopher Froome, tous s'y sont cassés les dents. En y parvenant, Pogacar rejoindrait un peu plus les géants de son sport, Fausto Coppi, Eddy Merckx ou encore Bernard Hinault.
Martin Lange pour Europe 1.
Et c'était le journal d'Alexis de La Fléchère. Merci beaucoup Alexis. Il est quasiment 7h20 sur Europe 1. Alors Anthony, il fait froid, il pleut, alors que nous sommes au mois de mai, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien tout cela est dû à ce qu'on appelle une goutte froide. Alors qu'est-ce que c'est une goutte froide? C'est tout simplement de l'air froid qui arrive et qui s'isole comme une petite boule. Et cette boule, elle tourne sur la France depuis plusieurs semaines.
Ah oui.
Et ça va encore continuer pendant plusieurs jours. Et comme à cette époque de l'année, le soleil est de plus en plus haut dans le ciel, il chauffe l'atmosphère. De la chaleur plus de l'air froid, ça fait donc un conflit. D'où la pluie, d'où les averses. Et ça va donc continuer encore aujourd'hui. Alors sauf sur une petite partie est et sud-est du pays, entre l'Alsace, le Jura, les Alpes, la Méditerranée et l'est des Pyrénées. Dans toutes ces régions, vous aurez un temps sec, mais quand même de plus en plus nuageux au fil des heures. Et puis ailleurs, comme les jours précédents, un temps assez gris. Quelques éclaircies quand même ce matin, notamment au nord de la Seine et près des côtes de la Manche. Et puis au fil des heures, de la pluie ou des averses. Des pluies qui sont déjà bien présentes ce matin entre la côte atlantique, le sud de la Bretagne et les régions centrales. Et puis il y aura en plus du vent, ce qui ne va rien arranger pour le ressenti côté température. Ce sera toujours frais pour la saison, entre 13 et 21 degrés. 15 à Reims, 16 à Paris et Lille, 18 à Nice, 21 à Marseille et 22 à Biarritz.
Merci Anthony.
Europe 1 Matin Weekend.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
Et à 6h42 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview conso d'Europe 1 Matin Weekend. Et ce matin, justement, Lénaïque Monnier cap sur les prochains ponts du mois de mai. On l'espère sous le soleil. Vous recevez pour en parler la directrice générale des Gîtes de France, Solange Escure.
Oui, parce qu'on a eu l'impression que le printemps et ses journées agréables n'arriveraient jamais. Et là, coup de chance, on a deux occasions de solder notre rab de jour à Prosé le week-end prochain, notamment ce sera le combo 8 mai jeudi de l'Ascension. Bonjour Solange Escure.
Bonjour.
Directrice générale des Gîtes de France. Est-ce que les ponts ont attiré les Français?
Tout à fait. Il y a énormément de locations qui se sont réalisées à la fois sur le week-end du 8 au 12 mai et sur celui du 18 au 20 mai. Un taux d'occupation exceptionnel pour ce mois de mai.
Alors justement, il est de combien ce taux d'occupation? Parce qu'il faut dire que là, c'est un beau pont. La semaine prochaine, c'est presque un viaduc. On peut même quasiment poser une semaine de vacances.
Exactement. Donc, il est à 88% pour le week-end du 8 au 12 mai et à 79% pour le week-end du 18 au 20 mai. Et il y a encore des réservations qui vont se faire en dernière minute puisque la météo s'annonce belle.
Oui, c'est ça. Il fallait attendre un petit peu aussi. Il ne fallait pas se rater sur la destination. Justement, selon Jessica,
nature. Ils ont envie de quoi, les Français qui partent sur le pont, là, d'océan, de campagne, de mise au vert?
Eh bien, de toutes ces destinations, en fait. Hein, ils ont envie à la fois de verdure, de campagne, de repos, également de balades sur les plages, hein, que ce soit dans le Finistère ou en Vendée, Loire-Atlantique, dans le sud avec le Vaucluse, mais également à l'intérieur avec le Pas-de-Calais, la Côte d'Or et bien d'autres départements, puisque le taux d'occupation moyen est exceptionnel sur l'ensemble du territoire. Donc, chacun trouve son bonheur en fonction de ses envies.
En fonction de ses envies et de ses besoins. Des destinations calmes, hein, pour des courts séjours familiaux, c'est ça aussi les gîtes aujourd'hui, sont prendre du temps pour soi?
Exactement. C'est pouvoir louer un hébergement et puis se retrouver en famille pour quelques jours, profiter de la nature, se détendre. Et puis également, le partage est important pour les vacanciers aussi, pouvoir échanger avec le propriétaire, découvrir une région, découvrir des traditions, des savoir-faire. Et cet échange avec le propriétaire, cet accueil personnalisé chez Gîtes de France est très, très important.
Et vous avez une clientèle, j'imagine, particulièrement urbaine, hein. Ce sont les citadins qui ont besoin de ces coupures ou pas forcément?
Nous avons une clientèle, bien sûr, urbaine, mais pas que. Il y a également des personnes qui vivent dans des départements avec un peu moins de villes et qui souhaitent également découvrir à proximité. En fait, il y a des destinations qui permettent de répondre aux envies de chacun, qu'on ait envie de culture ou de repos, de détente. Chacun peut trouver ce qu'il cherche.
Alors, Solange Escure, pour les auditeurs d'Europe 1 dont on parlait il y a un instant, qui sont peut-être indécis, qui attendaient d'avoir une petite fenêtre météo favorable, où est-ce qu'il reste des places? Est-ce qu'il y a des régions qui sont un peu préservées?
Il reste des places un peu partout, hein, puisqu'on est à 88% de taux d'occupation. Donc, il suffit d'aller sur le site gîtes-2-france.com et de choisir ses dates et l'offre disponible apparaîtra.
Alors, ce sont les courts séjours, Solange Escure, qui guident le plus les Français vers les gîtes de France, ou bien c'est la même chose pour les grandes vacances? Est-ce que vous avez déjà un peu de visibilité, de tendance sur l'été qui arrive?
Oui, nous avons une belle visibilité déjà sur juin, juillet, août, hein, puisque les réservations se font à l'avance pour beaucoup de Français. Il y a également, bien sûr, de la dernière minute. Mais oui, on a une très belle visibilité et déjà de beaux taux d'occupation sur l'été. Mais bien sûr, il reste encore beaucoup de disponibilité pour que ceux qui n'ont pas encore leur date de vacances puissent trouver leur bonheur.
Oui, parce que tous les patrons n'ont pas encore validé la possibilité de partir en vacances en juillet ou en août, sachant que, évidemment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde en France cet été avec les Jeux Olympiques. Alors, est-ce que par rapport au parcours de la Flamme, par exemple, ou aux alentours de Paris, Solange Escure, il y a un petit effet JO?
Oui, il y a un petit effet JO qui est multiple, en fait. Il y a à la fois des séjours pour voir passer la flamme ou pour les épreuves, mais il y a aussi des personnes qui vont louer un hébergement pour pouvoir ne pas subir le flux de spectateurs et autres. Donc, on a des séjours aussi de longue durée pendant la période des JO.
Est-ce que ça reste une clientèle française ou est-ce que vous voyez les touristes étrangers commencer aussi à venir s'installer quelques jours ou quelques semaines dans les gîtes de France?
Alors, c'est très variable et en fonction des destinations. Lorsqu'on est sur des départements où il y a une frontière à proximité, et bien là, la part de clientèle Europe est forte. Hein, ça peut aller jusqu'à 40 à 50% sur ces week-ends-là, par exemple. Donc, tout dépend. On oscille entre 10% et 40 à 50%.
Oui, ce qui fait quand même une petite marge. Solange Escure, les gîtes de France, c'est vrai que ça, on a l'impression, on connaît ça depuis qu'on est tout petit. L'image des gîtes de France aujourd'hui, elle est extrêmement positive. Est-ce que le succès continue de grandir?
Oui, parce que notre image, elle véhicule des valeurs qui parlent aux vacanciers, hein, donc la qualité. Puisque nos hébergements, ils sont régulièrement visités. Donc la qualité, l'accueil personnalisé, donc la convivialité, le partage et puis la responsabilité. On est les pionniers du tourisme durable, hein, en sauvegardant le patrimoine bâti. Et puis nous avons créé également les éco-gîtes il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Donc oui, les valeurs portées par notre marque et par nos propriétaires, elles parlent aux vacanciers et elles font sens.
Et avec un budget qui est aussi correspond aux attentes des Français. Hein. C'est vrai qu'on voyage moins, on voyage moins loin.
Oui, on peut trouver, en fonction de la catégorie de classement que va choisir le vacancier, il trouvera forcément quelque chose qui correspond à son budget, puisqu'on a un classement de 1 à 5 épis, donc avec une montée en gamme en fonction de chaque catégorie. Donc chacun peut trouver le budget qui lui correspond.
Eh bien, c'est ce qu'on va inviter à faire les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup, Solange Esquire, d'être venue nous parler pont, vacances et air. On en a tous besoin sur Europe 1 ce matin. Et bon week-end.
Merci, bon week-end et bon séjour à tous.
Une interview à retrouver partout en podcast quand vous le souhaitez, même en voyage, donc sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. Il est 7h10.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
L'heure du journal permanent, Alexis de la Fléchère.
Le Hamas sera présent au Caire, en Égypte, aujourd'hui pour parvenir à un accord de trêve avec Israël, dit l'organisation terroriste, qui accuse par ailleurs Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, de faire échouer toutes les tentatives d'avancer, en cause notamment l'offensive terrestre annoncée sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Une attaque contre Rafah qui causerait des dommages au-delà de l'acceptable. Ce sont les mots hier soir du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. En France, en soutien à la population palestinienne, l'Union syndicale lycéenne appelle à des blocus partout dans le pays dès lundi prochain. Hier, des étudiants pro-Palestine de Sciences Po Lyon, Le Havre ou encore Paris ont été évacués de leur établissement. Le campus lyonnais a même annoncé sa fermeture administrative finalement jusqu'au 12 mai. L'appel au calme dans l'actualité aussi du père de Matisse. La marche blanche prévue cet après-midi en hommage à son fils ne doit pas être récupérée politiquement, dit-il. Une marche qui doit s'élancer à 15h30 dans les rues de Châteauroux. Matisse, 15 ans, est décédé la semaine dernière, poignardé mortellement. Son meurtrier présumé est un Afghan de 16 ans. Enfin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a percuté un automobiliste avec sa voiture personnelle hier. Ça s'est passé vers 19h30 dans le 6e arrondissement. Le cycliste blessé à l'arcade a grillé un feu rouge d'après la police. Bruno Le Maire est indemne selon son entourage.
Merci Alexis, il est un peu plus de 7h10 sur Europe 1. Vanessa Zah nous propose une balade à Cabourg dans un instant et nous cuisinerons deux recettes de rhubarbe avec Olivier Pouls. À tout de suite.
Europe 1.
Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1. C'est la famille, on est tous ensemble.
Je vous écoute tous les jours, c'est de la bonne humeur. Je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail et j'ai vraiment passé un bon moment.
On vous embrasse Valérie, faites
bravo, bravo, bravo.
Ça part bien, les amis.
Qu'est-ce que c'est la chanson du matinalier?
Vous connaissez pas la chanson du matinalier?
Non. L'actu, c'est ma meilleure copine. Elle me fait rire quand elle me déprime. Vous connaissez pas celle-là?
Non, je connaissais pas, non.
C'est extrêmement important que vous puissiez nous dire ce que vous avez sur le cœur.
Je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention et je vous remercie de votre aide.
Europe 1.
Les Français ont envie d'avoir des images positives.
Avec vous.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh bien, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
Alors Chloé, ce nouveau travail?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
Europe 1 matin week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier.
Allez, avant de retrouver Alban Le Prince pour un nouveau journal sur Europe 1, on parle balade, on parle gastronomie. Bonjour Vanessa Zah, bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, bonjour.
Et nous partons donc, Vanessa, dans le Calvados, plus précisément à Cabourg.
Oui, parce que la station passe en mode belle époque aujourd'hui. Donc quelque part, on part à la recherche du temps perdu, parce que vous savez évidemment que Cabourg, c'est la station
c'est
de Marcel Proust, évidemment. Alors, il y était venu jeune, hein, lui, pour se faire soigner de son asthme. Et puis, à partir de 1927, il va y revenir jusqu'en 1914, tous les étés. Et à chaque fois au Grand Hôtel de Cabourg, il y a une suite qui porte son nom justement, et elle est décorée avec des meubles de l'époque. Et c'est au Grand Hôtel hein, qu'il va écrire.
Alors, est-ce qu'on peut pousser les portes de l'hôtel ?
Alors oui, alors aujourd'hui...
Oui, si on paye, oui, je pense.
Gratos, Vanessa, gratos.
Pour participer aujourd'hui à une visite, alors qui est loin d'être plan-plan, hein, parce que ce sont des artistes qui vont incarner les personnages clés de l'époque. En costume, bien sûr. Alors, vous aussi, vous allez devoir jouer le jeu toute la journée pour participer à toutes les animations que la station propose.
Bon, si vous n'avez pas ce qu'il faut... On n'a pas forcément ça dans notre petite valise.
Oui, mais alors, les commerçants mettent à disposition des accessoires. Voilà, des canotiers, par exemple.
Ah ouais, c'est joli, c'est ça. Je vois bien Olivier avec un canotier et un
magnifique.
Monocle. Alors, qu'est-ce qu'on y fait après, une fois qu'on est déguisé?
Alors, il y a un nombre d'activités incroyables. Alors, des loisirs d'époque, du badminton, cerf-volant, du grand bi, vous voyez ce que c'est?
Pas du tout.
Olivier, ça va être
pour
vous.
Voilà.
Une grande roue et une petite roue.
Très, très fort.
Ouais, mais c'est pas évident. Je vois bien. Il y a des balades en calèche, des démonstrations évidemment de danse des années 1900. Le survol de biplan.
Ah oui, oh là là.
Vous allez pouvoir faire aussi des photos de vous, vous faire tirer le portrait sur papier avec une chambre de photographie. Et puis, un tournoi de tennis. Et pas n'importe lequel.
On a des bruitages.
En tenue de la production.
En tenue d'époque.
Ouais, avec des balles et des raquettes de l'époque. Et c'est au Garden Tennis. Pourquoi ? Parce qu'en 1926, c'est là qu'ont eu lieu les finales de Coupe Davis. Donc c'est ludique.
Tel qu'on l'aimait à l'époque.
Voilà.
Alors,
et puis c'est une manière de partir sur les traces des quatre mousquetaires.
Dernière hein, petite expérience, Vanessa.
Le circuit des villas Belle Époque. Il y en a une trentaine dans l'éventail de la ville. Hein. C'est la marque de fabrique de la station. On retrouve ça nulle part ailleurs sur la côte. La seule dans laquelle on peut pénétrer, c'est la villa du temps retrouvé. Ah bah et moi, j'adore parce qu'on est chez soi, on peut jouer du piano, on peut s'asseoir dans les fauteuils, on peut lire des livres, mais on ne peut pas y dormir. Et donc, pour ça, je vous conseille la maison d'hôte, l'Argentine.
Ouais, depuis longtemps, je me suis couché de bonne heure.
Depuis longtemps, je me suis couché de bonne heure. Voilà, la petite référence culturelle à Proust, évidemment. Olivier, nous parlons rhubarbe ce matin.
Ouais.
Il va falloir être très convaincant, j'ai horreur de ça.
Ah bon? Mais vous n'aimez pas l'acidité?
Du tout.
Ah, mais moi, mais je suis sûr que
alors, moi, oui, mais avec
produit.
Beaucoup de sucre, justement, pour avoir moins d'acidité.
Mais c'est ce qui est intéressant, justement, dans la rhubarbe. Alors, si on ne l'aime pas comme ça, je vais quand même essayer de vous convaincre de faire deux petites recettes assez faciles. Donc, la rhubarbe, c'est une plante qui nous vient d'Asie. Elle est consommée chez nous depuis, finalement, pas si longtemps que ça. C'est le 18e siècle. C'est ce qu'on appelle la racine barbare, parce qu'elle n'était consommée que par les peuples étrangers. Elle comporte aujourd'hui une cinquantaine de variétés. C'est une plante herbacée vivace, bien connue, on l'a dit, pour son acidité. Alors, si elle est très souvent associée au dessert, on l'a longtemps considéré comme un légume. Et moi, je vous propose deux versions. Tout d'abord, une version légume,
ça,
oui, avec un agneau confit à la rhubarbe.
D'accord. Vous m'intéressez.
Et ouais, un peu dans l'esprit d'un tagine. Une épaule d'agneau, un oignon, quatre branches de rhubarbe, quatre carottes, des pommes de terre, une petite cuillère à soupe d'épices à tagine et puis une cuillère à soupe de miel pour contrebalancer.
Bon, voilà, pour adoucir.
Voilà l'acidité. Donc, on colore son agneau dans une cocotte. On y ajoute les légumes en gros dés. Sauf la rhubarbe, parce qu'elle cuit très vite et elle a un peu tendance à se déliter quand elle est trop cuite.
Donc trop fibreuse après. Ouais.
On saupoudre d'épices, on ajoute le miel, on mouille avec de l'eau et on laisse confire au four pendant une bonne heure à 140 degrés. Ensuite, on épluche la rhubarbe s'il y a besoin. Alors si c'est des toutes fines tiges, pas besoin de l'éplucher, on la coupe simplement comme ça en petits morceaux. On la rajoute et on laisse encore cuire une quinzaine de minutes. Et là, on va avoir ce jeu de texture d'une rhubarbe qui est encore un peu croquante, mais qui va donner un petit peps d'acidité dans votre plat. Vous l'achetez ?
Ah oui, ça j'achète.
Elle est convaincue.
Mais j'attendrai que vous me le cuisiniez parce que quand même, je ne suis pas stressée de moi.
Et puis sinon, en dessert, vous faites un clafoutis express à la rhubarbe. Alors là, ce n'est pas compliqué. Hein. 500 grammes de rhubarbe coupée en petits morceaux, 3 œufs, 120 grammes de sucre, un petit sachet de sucre vanillé, 50 grammes de farine, 20 centilitres de crème et autant de lait, une petite pincée de sel toujours. On réalise l'appareil en mélangeant tous les ingrédients. On épluche la rhubarbe, là encore, si besoin. On la taille en morceaux d'environ 2 cm. Mm-hmm. On dispose la rhubarbe dans le fond d'un plat beurré. On verse l'appareil par-dessus. On enfourne, c'est 35 minutes à 200 degrés. Et là, vous avez une rhubarbe, là aussi, avec ce petit côté acidulé, légèrement fondante, mais qui résiste très, très, très finement sous la dent. Moi, j'adore ça.
Plat et dessert pour ce midi. Merci Olivier Pouls, merci Vanessa Zah et Europe1.fr.
Et que vous souhaitiez parler de cuisine, pourquoi pas de voyage, d'amour, d'amitié, bref, de ce qui vous concerne, vous inquiète ou peut-être aussi vous chagrine, rendez-vous dans la libre antenne d'Europe1. C'est 7 jours sur 7, juste après le journal de 22h. Et le week-end, c'est Valérie Darmon qui vous attend pour échanger en toute liberté, sans jugement ni tabou. Alors appelez le 01 80 20 30.
3921 pour témoigner, un numéro non surtaxé.
Et nous, on se rejoint dans deux petites minutes pour le journal d'Alban Le Prince. Nous irons à Tel Aviv rejoindre la correspondante d'Europe 1. A tout de suite.
Europe 1 Matin Week-end.
L'Asie du Sud-Est en croisière, votre destination à vivre à l'occasion d'une croisière unique avec Paris Match et Voyages Exception. De Singapour à Bangkok, de Hanoï à Hong Kong, des secrets et des merveilles en 8 escales du 4 au 19 février 2025. Informations et réservations dès maintenant au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils les ont à 1,79€.
Les avocats ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, l'avocat est à 65. Centimes la pièce.
Quoi ? 60 centimes la pièce en lot de 3 ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est l'avocat Sion de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justice, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Kenya, Pérou, Brésil, Afrique du Sud ou Israël selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne!
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479€, soit 70€ d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3800€.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin.